Chapitre 3. Là finit mon petit discours, ma petite harangue, dans laquelle je ne mis point d'autre art que ma douleur, et qui fit son effet sur la dame en question. Je la vis qui s'essuyait les yeux. Cependant, elle ne dit mot alors, et laissa répondre la prieure, qui avait honoré mon récit de quelques gestes de main, de quelques mouvements de visage, qu'elle n'aurait pu me refuser avec décence, mais il ne me parut pas que son cœur eût donné aucun signe de vie. Certes, votre situation est fort triste, mademoiselle, car il n'y eut plus ni ma belle enfant, ni de mon ange. Toutes ces douceurs furent supprimées. Mais tout n'est pas désespéré. Il faut voir ce que ce religieux, que vous appelez le père Saint-Vincent, fera pour vous, reprit-elle d'un air de compassion posée. Ne dites-vous pas qu'il s'est chargé de vous trouver une place. Il lui est plus aisé de vous rendre service qu'à moi, qui ne sors point et qui ne saurais agir. Nous le voyons, nous ne connaissons presque personne, et à l'exception de madame et de quelques autres dames qui ont la bonté de nous aimer un peu, nous sommes des semaines entières sans recevoir une visite. D'ailleurs, notre maison n'est pas riche, nous ne subsistons que par nos pensionnaires, dont le nombre est fort diminué depuis quelque temps. Aussi sommes-nous endettés et si mal à notre aise que j'eus l'autre jour le chagrin de refuser une jeune fille, un fort bon sujet, qui se présentait pour être converse, parce que nous n'en recevons plus que quelques besoins que nous en ayons, et que nous apportons peu, elle nous serait à charge. Ainsi, de tous côtés, vous voyez notre impuissance, dont je suis vraiment mortifié, car vous m'affligez, ma pauvre enfant. Ma pauvre, quelle différence de style! Auparavant, elle m'avait dit « ma belle ». Vous m'affligez, mais que vous êtes-vous adressé au curé de votre paroisse? Notre communauté ne peut vous aider que de ses prières. Elle n'est pas en état de vous recevoir. Et tout ce que je puis faire, c'est de vous recommander à la charité de mes dames pensionnaires. Je quitterai pour vous, je quitterai, et je vous remettrai demain ce que j'aurai ramassé. Quêter pour un ange, à la belle chose à lui proposer. Non, ma mère, non, non, répondis-je d'un ton sec et ferme. Je n'ai encore rien dépensé de la petite somme d'argent que m'a laissée mon amie, et je ne venais pas demander l'aumône. Je crois que lorsqu'on a du cœur, il n'en faut venir à cela que pour s'empêcher de mourir, et j'attendrai jusqu'à cette extrémité. Je vous remercie. Ah, et moi, je ne souffrirai point qu'une fille bien née soit jamais réduite, dit en ce moment la dame qui avait gardé le silence. Reprenez courage, mademoiselle. Vous pouvez encore prétendre à une amie dans le monde. Je veux vous consoler de la perte de celle que vous regrettez. Elle ne tiendra pas à moi que je ne vous sois aussi chère qu'elle vous l'a été. Ma mère, ajouta-t-elle en s'adressant la parole à la religieuse, je paierai la pension de mademoiselle, vous pouvez la faire entrer chez vous. Cependant, comme elle vous est absolument inconnue, et qu'il est juste que vous sachiez quelles sont les personnes que vous recevez, nous n'avons pour vous ôter tout scrupule là-dessus, et pour empêcher même qu'on ne trouve à rendre, à redire à l'inclination que je me sens pour mademoiselle, nous n'avons, dis-je, qu'à envoyer tout à l'heure votre tourière chez cette madame du Tour, qui est marchande, et dont sans doute le bon témoignage justifiera ma conduite et la vôtre. Je compris à ce discours qu'elle était bien aise elle-même de connaître un peu mieux son sujet et de savoir à qui elle avait affaire. Mais observez, je vous prie, le tour honnête qu'elle prenait pour cela, et avec quel ménagement pour moi, avec quelle industrie, elle me cachait l'incertitude qui pouvait lui rester sur ce que je disais, et qui était fort raisonnable. On ne saurait payer ces traits de bonté-là. De toutes les obligations qu'on peut avoir à une belle âme, ces tendres attentions, ces secrètes politesses de sentiment sont les plus touchantes. Je les appelle secrètes parce que le cœur qui les a pour vous ne vous les compte point, ne veut point en charger votre reconnaissance. Il croit qu'il n'y a que lui qui les sait. Il vous les soustrait. Il en enterre le mérite et cela est adorable. Pour moi, je fus au fait. Les gens qui ont eux-mêmes un peu de noblesse de cœur se connaissent en égard de cette espèce et remarquent bien ce qu'on fait pour eux. Alors je me jetai avec transport, quoique avec respect, sur la main de cette dame que je baisais longtemps et que je mouillais des plus tendres et des plus délicieuses larmes que j'ai versées de ma vie. C'est que notre âme est haute et que tout ce qui a un air de respect pour sa dignité la pénètre et l'enchante. Aussi notre orgueil ne fut-il jamais ingrat. « Madame, lui dis-je, consentez-vous que j'écrive deux mots à Madame Dutour par la tourière ? Vous verrez mon billet, et je songe que dans les circonstances où je suis, et qu'elle n'ignore pas, elle pourrait craindre de la surprise et ne pas s'exprimer librement. » « Oui, dame, mademoiselle, me répondit-elle, vous avez raison, écrivez. Ma mère, vous voulez bien vous donner une plume et de l'encre ?»« Avec plaisir, dit la prieure, toute radoucie, et qui nous passa ce qu'il fallait pour le billet. Il fut court, et voici à peu près. La personne qui vous rendra cette lettre, madame, ne va chez vous que pour s'informer de moi. » Vous aurez la bonté de lui dire naïvement et dans la pure vérité ce que vous en savez, tant pour ce qui me concerne, mes mœurs et mon caractère, que pour ce qui a rapport à mon histoire et la manière dont on m'a mis chez vous. Je ne vous serais aucun gré de tromper les gens en ma faveur. Ainsi ne faites point difficulté de parler suivant votre conscience, sans vous soucier de ce qui me sera avantageux ou non. Je suis madame et Marianne au bas pour toute signature. Ensuite, je présentai ce papier à ma future bienfaitrice, qui, après m'avoir lu en riant et d'un air qui semblait dire « je n'ai que faire de cela », le donna à travers la griffe à la prieure et lui dit « tenez ma mère, je crois que vous serez de mon avis. C'est que quiconque écrit sur ce ton-là ne craint rien. » « À merveille !» reprit la religieuse quand elle en eut fait la lecture. « À merveille, on ne peut rien de mieux. » Et sur le champ, pendant que je mettais le dessus de la lettre, elle sonna pour faire venir la tourière. Celle-ci arriva, salua fort respectueusement la dame, qui lui dit « À propos, j'ai vu votre sœur à la campagne. » On est fort contente d'elle où je l'ai mise, et j'ai quelque chose à vous en dire, ajouta-t-elle, en la tirant un moment à quartier pour lui parler. Je présumais encore que j'étais cette sœur dont elle l'entretenait, et qu'il s'agissait de quelques ordres qui me regardaient, et deux ou trois mots comme « Oui, madame, laissez-moi faire », prononcés tout haut par la tourière, qui me regardait beaucoup, me le prouvèrent. Quoi qu'il en soit, cette fille prit le billet, partit et revint une petite demi-heure après. Ce qui fut dit entre la dame, la prieure et moi, pendant cet intervalle de temps, je le passe. Voici la tourière de retour. Ah, j'oublie pourtant une circonstance. C'est qu'avant qu'elle rentrât dans le parloir, une autre fille de la maison vint avertir la dame qu'on souhaitait lui dire un mot dans le parloir voisin. Elle y alla et n'y resta que 5 ou 6 minutes. À peine était-elle revenue que nous vîmes paraître la tourière, qui apparemment venait de la quitter, et qui, avec une gaieté de bon augure et débutant par un enthousiasme d'amitié pour moi, m'adressa d'abord la parole. « Ah, sainte mère de Dieu ! Que je viens d'entendre dire du bien de vous, mademoiselle. Allez, je l'aurais deviné. Vous avez bien la mine de ce que vous êtes. Madame, vous ne sauriez croire tout ce qu'on en vient de conter, c'est qu'elle est sage, vertueuse, remplie d'esprit et de bon cœur, civile, honnête, enfin la meilleure fille du monde. C'est un trésor. Or qu'on dit qu'elle est si malheureuse que nous en venons de pleurer, la bonne dame du Tour et moi. Il n'y a père ni mère, on ne sait qu'elle est. Voilà tout son défaut. Et sans la crainte de Dieu, elle n'en serait pas plus mal, la pauvre petite. Dis-moi un gros Richard, qu'elle a eu congédié pour de bonnes raisons, le vilain qu'il est. Je vous conterai cela une autre fois. Je vous dis seulement le principe. Au reste, madame, je vais comme vous me l'avez demandé. Je n'ai pas dit votre nom à la marchande. Elle ne sait pas qui est-ce qui en s'enquête. La dame rougit à cette indiscrétion de la tourière, qui me révélait que c'était de moi dont elles avaient parlé à part, et cette rougeur fut une nouvelle bonté dont je lui tins compte. « Voilà qui est bien, ma bonne, en voilà assez, lui dit-elle. Et vous, mademoiselle, n'entrerez-vous pas aujourd'hui? Avez-vous quelque hardes à prendre chez la marchande, et faut-il que vous y alliez ?»« Oui, madame, répondis-je, je serai de retour dans une demi-heure, si vous me permettez de sortir. »« Faites, mademoiselle, faites, allez, reprit-elle, je vous attends. » Je partis donc, le couvent n'était pas étant éloigné de chez madame Dutour, j'y arrivai en très peu de temps, malgré un reste de douleur que je sentais encore à mon pied. La lingère causait à sa porte avec une de ses voisines. J'entrai, je la remerciai, et je l'embrassai de tout mon cœur. Elle le méritait. « Eh bien, Marianne, Dieu merci, vous avez donc trouvé fortune, eh bien, par-ci, eh bien, par-là. Qui est cette dame qui a envoyé chez moi ?» J'abrégeai. « Je suis extrêmement pressé, lui dis-je. Je vais me déshabiller, mettre cet habit dans un paquet que j'ai commencé là-haut, qu'il faut que j'achève, et que vous aurez la bonté de faire porter aujourd'hui chez le neveu de M. de Climal. »« Oui, oui, reprit-elle, chez M. de Valville. Oh, je le connais, c'est moi qui le fournis. »« Chez lui-même, dis-je. Vous me remettez son nom, et en lui répondant, je montais déjà l'escalier qui menait à la chambre. » Dès que j'y fis, et vite, j'ôte la robe que j'avais, je reprends mon ancienne, je mets l'autre dans le paquet, et le voilà fait. Il y avait une petite écritoire et quelques feuilles de papier sur la table. J'en prends une, et voici ce que j'y mets pour Valville. Monsieur, il n'y a que 5 ou 6 jours que je connais Monsieur de Climal, votre oncle, et je ne sais pas où il loge, ni où lui adresser les hardes qui lui appartiennent, et que je vous prie de lui remettre. Il m'avait dit qu'il me les donnait par charité, car je suis pauvre, et je ne les avais prises que sur ce pied-là. Mais, comme il n'a pas dit vrai, et qu'il m'a trompé, elles ne sont plus à moi, et je les rends aussi bien que quelque argent qu'il a voulu à toute force que je prisse. Je n'aurais pas recours à vous dans cette occasion si j'avais le temps d'envoyer chez un récollet comme le père Saint-Vincent qui a cru me rendre service en me faisant connaître votre oncle et qui vous apprendra, quand vous le voudrez, à vous reprocher l'insulte que vous avez faite à une fille affligée, vertueuse et peut-être votre égale. Que dites-vous de ma lettre? Oh, j'en fus assez contente. Elle a trouvé mieux que je n'aurais moi-même espéré de la faire, vu ma jeunesse et mon peu d'usage. Mais on serait bien stupide si, avec des sentiments d'honneur, d'amour et de fierté, on ne s'exprimait pas un peu plus vivement qu'à son ordinaire. Aussitôt ce billet écrit, je pris le paquet et je descendis en bas. Je supprime ici un détail que vous devinerez aisément. C'est ma petite cassette pleine de méhardes, que je ne pouvais pas porter moi-même et que j'envoyais prendre en haut par un homme qui s'était dévoué au service de tout le quartier et qui se tenait d'ordinaire à 2 pas du logis. Ce sont mes adieux à madame Dutour, qui me promit que le ballot et le billet pour Valville seraient remis à leur adresse en moins d'une heure. Ce sont mille assurances que nous nous fîmes, cette bonne femme et moi. Ce sont presque des pleurs de sa part, car elle ne pleura pas tout à fait. Mais je croyais toujours qu'elle allait pleurer. Pour moi, je versais quelques larmes par tristesse. Il me semblait, en me séparant de la Dutour et en sortant de sa maison, que je quittais une espèce de parente et même une espèce de patrie, et que j'allais à la garde de Dieu, dans un pays étranger, sans avoir le temps de me reconnaître. J'étais comme enlevé. Il y avait quelque chose de trop fort pour moi dans la rapidité des événements qui me déplaçaient, qui me transportaient, je ne savais où, ni entre les mains de qui j'allais tomber. Et ce quartier dont je m'éloignais, le comptez-vous pour rien? Il me mettait dans le voisinage de Valville, de ce Valville que j'avais dit que je ne verrais plus, il est vrai. Mais il était bien rigoureux de se trouver pris au mot. Je m'étais promis de ne plus voir, et non pas de ne le voir plus, ce qui est bien autrement sérieux, et le cœur ne se mène pas avec cette redresse-là. Ce qui l'aide à être ferme dans un cas comme le mien, c'est la liberté d'être faible, et cette liberté, je la peinais par mon changement d'état, et j'en soupirais, mon courage en était abattu. Cependant, il faut partir, alors. Me voilà en chemin. J'ai dit à la Dutour que c'était à un couvent que je me rendais. Comment s'appelle-t-il? Je l'ignore aussi bien que le nom de la rue. Mais je sais mon chemin. Le crocheteur me suit. À son retour, il l'instruira. Et si par hasard elle voit Valville, elle pourra l'instruire aussi. Oh, ce n'est pas que je le souhaite. C'est seulement une réflexion que je fais en marchant et qui m'amuse. Eh bien oui, il sera le lieu de ma retraite, peu m'importe. Quand peut-il arriver? Rien, à ce qu'il me semble. Est-ce qu'il tentera de me voir ou de m'écrire? Oh que non, me disais-je. Oh que si, devais-je dire. Si je m'étais répondu à sincèrement, et suivant la consolante apparence que j'y trouvais. Nous nous approchons du couvent et nous y sommes. J'y revenais bien moins paré que j'en étais parti. Ma bienfaitrice m'en demanda la raison. C'est, lui dis-je, que j'ai repris mes hardes et que j'ai laissé chez Madame Dutour toutes celles que vous m'avez vues, madame, afin qu'elle les fasse rendre à l'homme dont je vous ai parlé et de qui je les tenais. « Ma chère fille, vous n'y perdrez rien, » me répondit-elle en m'embrassant. Après quoi, j'entrai, je revins la remercier à travers les grilles du parloir. Elle partit, et me voilà pensionnaire. Oh, j'aurais bien des choses à vous dire de mon couvent. J'y connus bien des personnes. J'y fus aimé de quelques-unes et dédaigné de quelques autres. Je vous promets l'histoire de ce séjour que j'y fis. Vous l'aurez dans la quatrième partie. Finissons celle-ci par l'événement qui a été la cause de mon entrée dans le monde. 2 ou 3 jours après que je fus chez ces religieuses, ma bienfaitrice m'y fit habiller comme si j'avais été sa fille et m'y pourvu sur ce pied-là de toutes les hardes qui m'étaient nécessaires. Jugez des sentiments que je pris pour elle. Je ne la voyais jamais qu'avec des transports de joie et de tendresse. Elle remarqua que j'avais de la voix. Elle voulut que j'apprisse la musique. La prieure avait une nièce à qui on donna un maître de clavecin. Ce maître fut le mien aussi. « Il y a des talents, me dit cette aimable dame, qui servent toujours quelque partie qu'on prenne. Si vous êtes religieuse, ils vous distingueront dans votre maison. Si vous êtes du monde, ce sont des grâces de plus et des grâces innocentes. » Elle me venait voir tous les 2 ou 3 jours. Et il y avait déjà 3 semaines que je vivais dans une situation d'esprit très difficile à dire, car je tâchais plus d'être tranquille que je ne l'étais, et ne voulais point prendre garde à ce qui m'empêchait de l'être, et qui n'était qu'une folie secrète qui me suivait partout. Valville savait sans doute où je demeurais. Je n'entendais pourtant point parler de lui, et mon cœur n'y comprenait rien. Quand Valville aurait trouvé le moyen de me donner de ses nouvelles, il n'y aurait rien gagné. J'avais renoncé à lui, mais je n'entendais pas qu'il renonçât à moi. Quelle bizarrerie de sentiment! Un jour que je rêvais à cela, malgré que j'en eusse, et c'était l'après-midi, on va me dire qu'un laquais demandait à me parler. Je crus qu'il venait de la part de ma bienfaitrice et je passai au parloir. À peine considérais-je ce prétendu domestique qui ne se montrait que de côté et qui d'une main tremblante me présenta une lettre. « De quelle part ? » lui dis-je. « Voyez, mademoiselle, me répondit-il d'un ton de voix ému, et que mon cœur reconnut avant moi, puisque j'en fus ému moi-même. Je le regardai alors en prenant sa lettre. Je lui trouvai les yeux sur moi. Quels yeux, madame ! Les miens se fixèrent sur lui. Nous restâmes quelque temps sans nous en rien dire. Il n'y avait encore que nos cœurs qui se parlaient. Quand une tourière arriva qui me dit que ma bienfaitrice allait monter et que son carrosse venait d'entrer dans la cour. Remarquez qu'elle ne le nomma pas. « C'est votre bonne maman, me dit-elle. » Et puis elle se retira. « Ah, monsieur, retirez-vous, criai-je tout troublé à Valville. » Car vous voyez bien que c'était lui, qu'il me répondit que par un soupir en sortant. Je cachai ma lettre en attendant ma bienfaitrice, qui parut à l'instant après, et qui amenait avec elle une dame que j'ai bien aimée, que vous aimerez aussi sur le portrait que je vous en ferai dans ma 4e partie, et que je joindrai à celui de cette chère dame qu'on appelait ma mère.